Bienvenue sur le podcast Écrire pour soi, où on parle d'écriture et de motivation. Je m'appelle Camilla Morel et je suis autrice de romans imaginaires et libraire. Dans ce podcast, je souhaite vous appuyer dans l'écriture de votre roman, mais surtout vous aider à avoir confiance en votre écriture. Vous pouvez me retrouver sur Écrire pour soi chaque semaine pour faire le plein de motivation et d'assurance, mais aussi sur le Instagram Camilla Morel avec un zéro pour le haut. Le point d'honneur du podcast, trouver le plaisir dans sa passion, en se déculpabilisant. Et maintenant, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. J'interromps mon épisode de podcast pour te parler de l'espace Écrire pour soi, la boutique que j'ai fondée et mise en place fin 2023 pour aider les auteurs et les autrices à s'organiser et à gagner en sérénité en écriture. Deux produits y sont déjà disponibles. Le premier, c'est la formation « Planifie ton roman comme un ou une pro » qui t'aide à trouver ta propre méthode de planification de roman et t'apprend à utiliser un logiciel adaptable à tes besoins de A à Z. Le deuxième, c'est un tout nouvel organisateur spécialement fait pour les auteurs et autrices qui est personnalisable et que tu peux utiliser sur la plateforme de ton choix. En plus, je t'offre un cadeau. À l'achat de l'organisateur, tu obtiens 25€ de rabais sur ma formation. Alors n'hésite pas à visiter les liens dans les notes de l'épisode pour en apprendre plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et que ça se passe bien pour vos projets. Je vous retrouve après un bon moment. Je crois que j'avais pas enregistré d'épisode de podcast depuis avant mon voyage en France qui s'est passé de fin novembre à début décembre. Actuellement, alors que j'enregistre cet épisode, on est le 18 décembre et je suis en pause de podcast. Donc, j'ai décidé de ne pas poster pendant décembre ou en tout cas pas avant un petit moment. Je préférais prendre une pause pour revenir en force en janvier. Et pour être tout à fait honnête, je vais pas très bien en ce moment. Niveau moral, pas d'inquiétude à avoir, mais je préfère être transparente avec vous. Par contre, aujourd'hui, j'avais envie d'enregistrer un épisode parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être me remonter le moral. Et si vous commencez un petit peu à me connaître, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup les bilans et les objectifs. C'est immanquable pour moi à chaque début d'année ou fin d'année. Je fais un bilan. Donc, je regarde qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai découvert sur moi. Et je fais aussi une liste d'objectifs pour l'année à venir. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Je pense que je fais ça depuis 2021. Et depuis, j'accomplis mes objectifs. Donc, je me fais une liste, mais à part ça, je la colle aussi devant mon ordinateur. Donc, juste en haut, j'ai un babillard avec tous les objectifs que j'ai, des affirmations positives et aussi des images qui représentent mes objectifs. Et grâce à ça, ben, je les vois souvent. Alors, je les perds pas de vue et je finis par les accomplir au fil de l'année. Mais aujourd'hui, on n'est pas ici pour parler d'objectifs parce que je voulais vous en faire un épisode de podcast complet plus tard. Donc, ça risque d'être celui juste après. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous offrir une sorte de tag. En fait, c'est surtout un tag pour moi. Donc, une sorte de bilan d'écriture. J'en ai déjà fait un sur Instagram, mais c'était celui de Alice Posière. Je crois que ça s'appelle End of the Year Writing Tag. Donc, c'est vraiment un tag qu'elle a fait il y a quelques années, je crois. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont repris. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que les questions sont vraiment fun et intéressantes à répondre. Mais j'avais envie de refaire peut-être quelque chose d'un peu plus développé sur le podcast, parce que comme ça, je peux parler autant que je veux et je peux donner un peu plus de détails. Par contre, je trouvais ça un peu dommage de refaire le même tag. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas en créer un vraiment à ma sauce, créer vraiment les questions auxquelles j'ai envie de répondre et qui vont me permettre de faire l'introspection que j'ai envie de faire. Vous avez le droit de le reprendre si vous voulez, même si c'est pas sa vocation à la base. Le but, c'est vraiment de créer des questions pour moi. Vraiment, je vais pas vous retenir. Allez-y avec plaisir. Les questions vont être dans les notes de l'épisode. Alors, on commence sans plus tarder avec les objectifs que j'avais. Cette fois-ci, je vais parler en général, mais toutes les autres questions sont vraiment axées sur l'écriture. Alors, j'avais pour objectif d'avoir abouti LTR, donc la traverse-rêve. Je voulais avoir fini le roman, fini ses réécritures. Et le deuxième objectif par rapport à ça, c'était de l'envoyer à des maisons d'édition, ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait deux groupes d'envois, on va dire, pour l'instant. Et il y a un ou deux autres envois prévus dans quelques temps. J'avais aussi pour projet de terminer mon site web d'autrice, de poursuivre le podcast, de commencer ma newsletter. Et tout ça, ça a été accompli, donc j'étais contente. Le seul truc que j'ai pas réussi à faire, c'est de faire plus d'activités physiques. Ça, je me suis pas vraiment beaucoup laissé de temps pour moi-même cette année et c'est quelque chose que je veux rectifier en 2024 parce que je sens que j'arrive vraiment à épuisement. Donc, il faut que je prenne plus soin de moi cette année et ça risque d'être en tête dans mes objectifs, mais ça, on va s'en reparler la semaine prochaine. La deuxième question, c'est quoi les projets sur lesquels j'ai travaillé? Alors, on se cachera pas que j'ai travaillé sur la traverse rêve pendant une grande majorité de l'année. Donc, de janvier à septembre, début septembre, j'ai travaillé non-stop sur la traverse rêve, pas mal à tous les jours. C'est très rare que j'ai pris des pauses. Donc, j'ai fait deux réécritures complètes plus une révision à la fin et le dossier de soumission, tout ça. Ensuite, il y a eu Molanta. Et là, j'ai voulu m'embarquer dans un nouveau projet qui était ma saga sur les faillites. Et ça n'allait pas très bien, je me sentais pas en phase avec le projet, je sentais que c'était pas le moment pour l'écrire. Donc la première semaine de Molanta, j'ai écrit je sais plus combien de mots, peut-être entre 20 000 et 30 000, je crois. Et après, ben, j'ai décidé que j'allais passer sur le tome 2 de la Traverse Rêve. Et sur celui-là, mon Dieu, j'ai aucune idée, je suis à combien, mais je pense minimum 60 000. Donc, j'ai pas mal avancé la traverse rêve, je suis comme environ au tiers, je pense. Et à part ça, là, je suis en planification d'un nouveau projet vraiment différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je compte le commencer là, dans quelques jours, le premier jet. Donc, très très hâte, je pense que ça va être vraiment fun. Et donc, ça fait 4 manuscrits sur lesquels j'ai travaillé. Il y en a un que j'ai abouti enfin, donc mon premier manuscrit abouti. 2 qui sont pas terminés et un qui est relativement bien avancé et un qui est tout juste au stade de début, là, de planification. La troisième question, c'est quoi la routine d'écriture qui m'a le plus accompagnée cette année? Alors, cette année, vu que j'ai fait de la réécriture la majorité du temps, je préférais vraiment travailler sur mon bureau dans la chambre à l'intérieur. Quand je suis en premier jet, j'aime vraiment beaucoup écrire à l'extérieur, écrire à plein d'endroits différents avec mon iPad. Mais là, en réécriture, j'ai comme besoin de beaucoup de documents. Donc, je restais toujours à mon bureau. Et honnêtement, j'avais une routine un peu moins élaborée qu'avant, on pourrait dire. Mais en gros, c'était juste de partir ma playlist d'écriture que j'avais fait spécialement pour la Traverse Rêve et d'ouvrir tous mes documents. Donc, ouvrir mon Miro, ouvrir le manuscrit en tant que tel, ouvrir les commentaires de bêta lecture. Donc, c'était vraiment juste ça. Il n'y avait pas grand-chose. Et aussi, ben, pour m'occuper un petit peu les mains pendant que je réfléchissais à ce que je faisais dans ma réécriture, j'avais une sorte de petit truc en tissu avec une bille dedans, c'est vraiment fait pour occuper les personnes qui sont un petit peu hyperactives et tout ça. Donc j'avais ça, mais à part ça, j'ai pas fait de séance de yoga ou d'affirmation positive comme je faisais avant. J'en ressentais pas forcément le besoin. Et perso, quand je suis vraiment en phase dans l'écriture et que j'écris à tous les jours, c'est relativement facile de me mettre dans mes séances. Donc, pas une très grosse routine cette année. Ensuite, la quatrième question, c'est une habitude que j'ai prise cette année, toujours en écriture. Et je dirais que cette habitude-là, qui est vraiment importante pour moi et mon processus, c'est de plus prendre en note ce qui me vient. Alors, ça peut avoir l'air vraiment bateau pour certains, mais moi, j'ai la fâcheuse tendance à ne pas prendre en note ce qui me vient. Et donc, ça fait en sorte que j'oublie mes idées. Là, j'ai tout pris en note. Autant mes idées pour mon nouveau projet que mes idées pour mon tome 2 de la Traverse Rêve, que mes idées pour la réécriture, que ce que j'avais envie de changer pour ma révision après ma réécriture. Donc j'ai vraiment tout écrit et ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Comme ça, j'ai moins perdu le fil de mes pensées. Et surtout, ben, j'ai fait ça dans Miro, qui est mon application de prédilection, vous le savez. J'ai vraiment mis tout ce que je voulais ajuster dans mes révisions. Et comme ça, je perdais rien, j'oubliais rien. Ensuite, une découverte que j'ai faite sur mon style pour la cinquième question. Honnêtement, mon style est encore vraiment en état de changement, d'évolution. C'est normal, j'ai seulement écrit un roman et deux petits bouts de premier jet, on pourrait dire. Surtout, je pense que le style change d'un projet à l'autre. Et le style, pour moi, c'est encore un concept très flou. Donc, je dirais que j'ai pas de truc très, très établi pour l'instant. Mais il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que quand je lis, je tire beaucoup de choses, en fait, de mes lectures. Donc, par exemple, si je vois un auteur qui fait beaucoup de métaphores, pendant ma lecture de ce livre-là, ça se peut que je fasse du mimétisme et que je commence à mettre un peu plus de métaphores que d'habitude. Donc, clairement, c'est mes métaphores, c'est pas les leurs, donc c'est pas de la copie ou quoi que ce soit. Mais on dirait que les lectures m'influencent et ça me dérange un petit peu. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que je peux apprendre des trucs en lisant. Et ça me permet de tester des choses pendant l'écriture. Ensuite, j'ai une découverte que j'ai faite sur moi en tant qu'auteur. La découverte que j'ai faite sur moi et qui a vraiment teinté toute mon année, on pourrait dire, c'est que le premier jet, c'est vraiment facile comparé à la réécriture dans mon cas. En tout cas, pour l'instant. Donc, j'ai terminé un premier jet l'an dernier, en 2023. Je l'avais fini en septembre. Et j'ai commencé deux premiers jets cette année et vraiment, je préfère à 100% cette étape. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que je suis moins perfectionniste et j'essaie moins de faire un truc super bon. C'est un peu normal, c'est juste le premier jet et à la réécriture, on veut de plus en plus peaufiner notre roman afin qu'il soit prêt à être envoyé en maison d'édition. Mais vraiment, le premier jet, c'est le moment où je m'éclate, le moment où je découvre des choses sur mes personnages, sur mon univers, sur mon histoire. J'ai vraiment du fun en premier jet, c'est comme un immense bac à sable pour moi. Et même si je planifie mes romans au chapitre près, souvent à la scène près, je me permets de divaguer, de changer des choses dans mon plan, d'inverser des chapitres, de retirer des chapitres, d'ajouter des scènes, d'ajouter des dialogues auxquels j'avais pas réfléchi en planification. Et ça, c'est comme vraiment fun. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais je préfère largement ça. Et surtout, plus on avance dans les réécritures, plus on est un peu tanné de notre projet et on a envie de passer à autre chose. Moi, c'était vraiment ça. J'avais hâte de terminer pour soit continuer dans le tome 2 et écrire un nouveau premier jet ou un autre projet tout simplement avec de nouveaux personnages, d'un nouvel univers et tout ça. La réécriture aussi, c'est beaucoup plus exigeant pardon, pour moi. Ça demande vraiment beaucoup de concentration. Alors, c'est ça la découverte que j'ai faite sur moi. Le premier jet, c'est un jeu d'enfant. La réécriture, immense défi. Au revoir. Je ne veux plus en faire, mais je vais en faire quand même parce que je veux que mes romans s'améliorent. Et honnêtement, la réécriture m'a appris encore plus de trucs que le premier jet. C'est clair et net. Ça m'a appris beaucoup de choses sur l'écriture, donc je suis quand même très très reconnaissante d'avoir fait cette étape-là et de l'avoir faite jusqu'au bout. Le meilleur conseil d'écriture que j'ai reçu cette année pour la question d'après. Alors, si on y va vraiment niveau technique, je dirais que c'est l'un des conseils que j'ai eu en bêta lecture, de ne pas répéter 1000 fois la même chose d'une façon différente. Et surtout, de rendre mes phrases plus impactantes en les raccourcissant et en enlevant tous les mots superflus. Ça, c'est quelque chose qui a fait une grande différence dans ma réécriture et dans mes nouveaux premiers jets. Donc, je dirais que c'est ça. Ça a une grande incidence sur la forme, mais pas juste la forme. Ça a une incidence aussi sur le fond du roman. Parce qu'évidemment, la forme l'impacte et impacte la justesse de nos mots et de notre histoire. Inversement, le pire conseil d'écriture que j'ai reçu cette année, je sais pas si on peut mettre cette expérience-là dans cette question, mais j'ai pas d'autre idée. On m'a pas vraiment donné de mauvais conseils d'écriture cette année. Ce serait toutes les personnes qui me disent de couper mon roman. Vraiment, j'ai peur d'être obligée de le faire un jour, mais pour moi, c'est pas un bon conseil. C'est un conseil qu'on peut pas donner, selon moi, à quelqu'un sans avoir lu le roman, sans avoir une bonne idée de c'est quoi la structure narrative du roman, c'est quoi les chapitres, c'est quoi les événements. Vraiment, je trouve que c'est pas un conseil à donner à la légère à quelqu'un. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on me disait de faire, mais à chaque fois que je parle du fait que j'ai un long roman de 180 000 mots, je reçois ce commentaire, je pense, une 20aine de fois. Et ça commence à être un peu redondant et répétitif, c'est clair, même si je comprends l'intention derrière et je comprends qu'on me dise ça, parce que c'est quand même un très gros roman. Et, ben, pour être honnête avec vous, quand j'ai été au Salon du livre de Montreuil cette année, des éditeurs m'ont dit que probablement personne ne voudrait publier un gros livre comme ça. Donc oui, ce conseil est compréhensible, mais en même temps, je suis certaine à 100%, et mes bêta-lectrices sont d'accord, que ça réduirait grandement l'impact et la qualité du tome 1 de La Traverse-Rêve. En fait, ceux qui écoutaient ce podcast, vous le savez, vous êtes auteur, mais quand on coupe en fait dans une saga à un endroit spécifique, il y a une raison, et quand on coupe ce tome ou un tome, ben on finit par briser un peu le rythme. Alors voilà. Ensuite, la question d'après, c'est le personnage qui a été le plus facile à écrire versus le plus difficile. Je vais pas embarquer dans le roman Faye parce que j'ai pas travaillé assez longtemps dessus, donc je vais juste compter La Traverse-Rêve dans cette question. Mais pour moi, le personnage le plus facile à écrire, c'est... En fait, je sais même pas comment répondre à cette question parce que certains aspects d'Oriane étaient très faciles à écrire et certains difficiles. Et même chose pour Ezra. Néanmoins, je dirais que le plus difficile, c'était Ezra et la plus facile, Oriane. Parce qu'Oriane a une expérience qui ressemble un peu à la mienne à certains égards dans le roman. Et Ezra, même s'il y a des points commun avec moi, en fait. Il y a certains de ces combats que je peux pas comprendre parce que j'ai jamais vécu. Donc, il a fallu que je fasse des recherches, j'ai fait appel à une bêta-lectrice sensible, etc., etc. Donc, ça m'a demandé quand même des recherches et là, ça, c'était plus difficile. Mais sinon, les deux avaient comme des aspects difficiles et faciles et je les aime d'amour. Donc, voilà. Ensuite, le plus gros obstacle que j'ai dû franchir... Pour moi, cet obstacle-là n'est pas encore franchi et c'est les soumissions. Je trouve ça vraiment difficile et je pense qu'avant, j'aurais pas répondu ça, j'aurais répondu la réécriture parce que ça aussi, ça a été un immense défi pour moi avec tous les mois que j'ai passés, toutes les heures que j'y ai mis, tous les doutes que j'ai vécu par rapport à ça. Mais je trouve ça encore plus difficile moralement d'être en période de soumission et de ne plus avoir mon manuscrit en main, de plus avoir le contrôle de ce qui se passe avec, de devoir attendre, de probablement devoir essuyer des noms. Tu sais, pour l'instant, j'en ai eu deux. Le plus dur aussi, c'est de pas savoir s'il va être publié un jour, de pas savoir s'il est assez bon, parce que là, je sais pas si vous avez déjà fait des soumissions, mais si oui, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai l'impression que quand on a envoyé, soudain, notre roman est vraiment nul. Genre, je sais qu'on est plusieurs à avoir ce sentiment-là après l'envoi, que finalement, notre réécriture n'a pas assez amélioré les choses et qu'en fait, il faudrait juste renoncer à cet envoi-là. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de sentiments négatifs par rapport à la soumission. J'ai l'impression que ça va aboutir à rien. J'ai très peu d'espoir, pour être honnête. J'ai peur de recevoir les refus dans pas très longtemps, probablement. Et voilà, c'est un peu ça le ressenti. Et surtout, j'ai peur que ce roman-là ne sorte jamais, malgré tous les efforts que j'ai mis. Ce serait ok dans un sens, t'sais, c'est quand même mon premier roman, donc ce serait pas non plus hyper étonnant, mais ça ferait mal un peu. Donc ça, c'est le plus gros obstacle que je franchis encore et que j'espère traverser bientôt. Alors, mon plus grand apprentissage après, c'est un apprentissage qui commence à entrer dans mon cœur, on va dire, mais que je dois encore travailler. C'est la patience. Et ça, la patience, c'est pas juste par rapport au fait d'attendre les réponses des maisons d'édition, c'est aussi par rapport à mon rythme. J'ai un rythme assez rapide en écriture, dans le sens que j'ai le temps d'y consacrer quelques heures par jour. Quelques heures, je veux dire une, deux, en ce moment. Et donc, j'avance relativement vite comparativement à certaines personnes qui ont un emploi du temps qui leur permet pas ça. Mais j'ai quand même envie d'aller plus vite. J'aurais envie d'aller aussi vite qu'un auteur qui écrit à temps plein. Mais ça ne se peut pas, en fait. Donc, il faut que j'apprenne à réfréner mes ardeurs. Et la raison pour laquelle j'ai envie d'aller aussi vite, c'est pas juste parce que j'ai envie de publier rapidement, mais surtout parce que j'ai une très longue PAF Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une PAF, allez écouter l'épisode sur écrire de longs romans versus de petits romans avec d'autres invités parce que c'était une table ronde. En fait, dans cet épisode-là, Paul Varichon parlait du concept de PAF qui est pile à faire, donc tous les concepts de romans qu'on a envie d'écrire. C'est sûr que ça pourrait être PAE pour pile à écrire, mais c'est plus drôle de dire PAF. Alors go, on dit PAF. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'univers que j'ai envie d'explorer. J'ai envie de faire des faillites, peut-être des vampires, j'ai envie d'un monde sous-marin, j'ai envie d'un monde dans l'espace, j'ai envie de... Vous voyez un peu le truc. J'ai envie de tout explorer, de tout essayer en imaginaire. Alors, faut que j'aille vite, entre guillemets, pour y arriver et pour écrire toutes les histoires que j'ai envie d'écrire, pour rencontrer tous les personnages que j'ai envie de rencontrer. Mais il faut que je réfrène ça et je commence un petit peu à l'apprendre, entre autres grâce aux soumissions qui me forcent à attendre. Alors voilà. Ensuite, ma plus grande fierté en écriture, ben pour cette année, je dirais que c'est tout simplement d'avoir abouti mon premier roman. En 2022, on aurait pu dire c'était d'avoir terminé mon premier jet, un premier jet. Et là, c'est d'avoir terminé un premier roman et de l'avoir envoyé en maison d'édition. Vraiment, pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça fait tellement d'années que j'ai envie de terminer un roman, que j'ai envie d'avoir un roman dont je suis fière et que j'ai envie de soumettre, d'avoir une chance peut-être d'être publié. Et là, je suis plus proche de mon rêve que jamais, même si j'ai pas de oui. J'aurais jamais été aussi proche, j'aurais jamais fait autant d'efforts en fait, et ça, j'en suis fière. Ensuite, une erreur que je ne veux pas refaire l'an prochain, toujours en écriture, j'espère en fait plus m'écouter dès le début du processus de création d'un roman. Dans La Traverse Rêve, il y avait des petits problèmes dès le début, donc dès la planification, et je le savais au fond de moi, donc j'avais comme la notion que quelque chose n'allait pas, mais j'étais pas certaine parce que je me disais à l'écriture ça va sûrement passer, mais je me suis rendu compte que non et que souvent mon intuition est vraiment bonne et qu'il faut que je la suive. Donc j'espère que si j'ai l'impression que quelque chose ne va pas ou que quelque chose ne va pas aller dans l'écriture, faudrait comme changer le plan, trouver une alternative et tout simplement essayer de trouver mieux. Alors, j'espère plus m'écouter et ne pas réfréner mes doutes au fond de moi. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Et c'est tout. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tag. Je pense l'appeler peut-être mon chapitre annuel, quelque chose comme ça. On verra bien. Mais en tout cas, moi j'ai aimé répondre à ces questions-là et j'ai très hâte de vous retrouver pour l'épisode de la semaine prochaine dans lequel on va parler d'objectifs. Si ça vous dit, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour me parler de votre plus grande fierté, de votre plus grand apprentissage, peu importe, vous pouvez totalement venir discuter avec moi. Alors je vous souhaite une très belle semaine, j'espère que vous vous porterez bien et que vos projets aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça aide à le faire connaître et surtout, ton interaction est une grande source de motivation pour moi. Tu peux me retrouver sur Instagram et toutes les plateformes citées dans les notes. J'y poste du contenu sur l'écriture, la motivation et la productivité. En attendant le prochain épisode, n'oublie pas de prendre du plaisir à écrire pour toi.